Un mauvais jour.
Par les fenêtres de la maison Bonnefille, Béatrice d'Hirson regardait la pluie tomber dans la rue Mauconseil. Depuis plusieurs heures, elle attendait Robert d'Artois, qui lui avait promis de la rejoindre, cet après-midi-là. Mais Robert ne tenait aucunement ses promesses. Les petites pas plus que les grandes, et Béatrice se jugeait bien stupide de le croire encore. Pour une femme qui attend, un homme a tous les torts. Robert ne lui avait-il pas promis aussi, et depuis près d'un an, qu'elle serait dame de parage en son hôtel? Au fond, il n'était pas différent de sa tante. Tous les Artois se ressemblaient, des ingrats. On se crevait à faire leur volonté, on courait les herbières, et les jeteurs de sorts, on tuait pour servir leur intérêt, on risquait la potence ou le bûcher, car ce n'eût pas été Monseigneur Robert qu'on eût arrêté si l'on avait pris Béatrice à verser l'arsenic dans la tisane de Madame Mao, ou le sel de mercure dans le hanap de Jeanne la Veuve. « Cette femme, aurait-il dit, je ne la connais pas. Elle prétend avoir agi sur mon ordre, menterie. Elle était de la maison de ma tante, pas de la mienne. Elle invente fable pour se sauver. Faites-la donc rouer. » Entre les paroles d'un prince de France, beau-frère du roi, et celles d'une quelconque nièce d'évêque dont la famille n'était même plus en faveur, qui donc aurait hésité? « Et j'ai fait tout cela pour quoi ?» pensait Béatrice. « Pour attendre. Pour attendre et sceller en ma maison que Monseigneur Robert daigne une fois la semaine me visiter. Il avait dit qu'il viendrait après vêpres. Voici le salut sonné. Il a dû encore ripailler, traiter trois barons à dîner, parler de ses grands exploits, des affaires du royaume, de son procès, flatter de la main le rein de toutes les chambrières. Même la Divion mange à sa table à présent, je le sais. Et moi, je suis ici à regarder la pluie. Et il arrivera à la nuitée, lourd, rotant beaucoup et les joues enflammées. Il me dira trois fadaises, s'écroulera sur le lit pour y dormir une heure et repartira, si même il vient. » Béatrice s'ennuyait, plus encore qu'à Conflans dans les derniers mois de Mao. Ses amours avec Robert s'enlisaient. Elle avait cru piéger le géant, mais c'était lui qui avait gagné. La passion, contrariée, humiliée, se changeait en sourde rancune. Attendre, toujours attendre. Et ne pas même pouvoir sortir, courir les tavernes avec quelques amis à la recherche de l'aventure, parce que Robert pourrait justement survenir dans ce moment-là. En plus, il la faisait surveiller. Elle comprenait bien que Robert se détachait d'elle et ne la voyait plus que par obligation, comme une complice qu'il faut ménager. Deux semaines entières se passaient parfois sans qu'il lui témoignât de désir. « Tu ne gagneras pas toujours, Monseigneur Robert, » disait-elle tout bas. Elle commençait secrètement de le haïr, faute de le posséder assez. Elle avait essayé les meilleures recettes de filtre d'amour. « Tirez de votre sang un vendredi de printemps. Mettez-le sécher au four dans un petit pot avec deux couillons de lièvre et un foie de colombe. Réduisez le tout en poudre fine et faites-en avaler à la personne sur qui vous avez dessein. Et si l'effet ne se fait pas à la première fois, réitérez jusqu'à trois fois. Ou bien encore, vous irez un vendredi matin, avant soleil levé, dans un verger fruitier et cueillerez sur un arbre la plus belle pomme que vous pourrez. Puis vous écrirez avec votre sang, sur un petit morceau de papier blanc, votre nom et surnom, et une autre ligne suivante, le nom et le surnom de la personne dont vous voulez être aimé. Et vous tâcherez d'avoir trois de ses cheveux, que vous joindrez avec trois des vôtres, qui vous serviront à lier le petit billet que vous aurez écrit de votre sang. Puis vous fendrez la pomme en deux, vous en ôterez les pépins, et en leur place, vous mettrez le billet lié des cheveux. Et avec deux petites brochettes pointues de branches de myrte verte, vous rejoindrez proprement les deux moitiés de pomme, et la ferez bien sécher au four, en sorte qu'elle devienne dure et sans humidité, comme des pommes sèches de carême. Vous l'envelopperez ensuite dans des feuilles de laurier et de myrte et tâcherez de la mettre sous le chevet du lit où couche la personne aimée, sans qu'elle s'en aperçoive. Et, en peu de temps, elle vous donnera des marques de son amour. Vaines entreprises. Les pommes du vendredi restaient inopérantes. La sorcellerie où Béatrice se croyait infaillible paraissait n'avoir pas de prise sur le comte d'Artois. Il n'était pas le diable tout de même, en dépit de ce qu'elle lui avait affirmé pour le conquérir. Elle avait espéré être enceinte. Robert semblait aimer ses fils, par orgueil peut-être, mais il les aimait. Ils étaient les seuls êtres dont il parla avec un peu de tendresse. Alors un bâtard qui lui serait venu à présent. Et puis c'eût été un bon moyen pour Béatrice, montrer son ventre et dire « J'attends un enfant de Monseigneur Robert ». Mais soit qu'elle eût dans le passé dérangé la nature, soit que le malin l'eût faite telle qu'elle ne put engendrer, cet espoir-là aussi avait été déçu. Et il ne restait à Béatrice d'Hirson, ancienne demoiselle de parage de la comtesse Mao, que l'attente, la pluie et des rêves de vengeance. À l'heure où les bourgeois se mettaient au lit, Robert d'Artois arriva enfin, la mine fort sombre et se grattant du pouce le piquant de la barbe. À peine regarda-t-il Béatrice qui avait pris soin de mettre une robe neuve. Il se versa une grande rasade d'hypocrase. « Il était vanté !» dit-il avec une grimace, en se laissant choir sur un siège qui rendit un grand gémissement de bois. Comment le breuvage n'eût-il pas perdu son arôme ? La guerre était préparée depuis 4 heures. J'espérais plutôt ta venue, monseigneur. Eh oui, mais j'ai de graves soucis qui m'ont tenu empêché. Comme le jour d'hier, et comme l'hier d'avant. Comprends aussi que je ne peux me montrer en trente jours en ta maison, surtout en ce moment qu'il me faut recroître de prudence. La bonne excuse, alors ne me dis point que tu viendras de jour, si tu ne me veux visiter que la nuit, mais la nuit appartient à la comtesse ton épouse. Il haussa les épaules d'un air excédé. « Tu sais bien que je ne l'approche plus !» Tous les époux disent cela à leurs bonnes amies, les plus grands du royaume comme le dernier des savetiers. Et tous mentent de la même façon. Je voudrais bien voir que Madame de Beaumont te fit si bon visage et se montra de si bon air avec toi si tu n'entrais jamais en son lit. Pour les journées, monseigneur est au conseil étroit, à croire que le roi tient conseil de la crevée de l'aube jusqu'au soir couchant. Ou bien monseigneur est à la chasse, ou bien monseigneur va jouter. Ou bien monseigneur est parti pour sa terre de Conches. « La paix !» cria Robert, abattant le plat de la main sur la table. « J'ai d'autres soins en tête que d'écouter sornettes de femelles. C'est aujourd'hui que j'ai présenté ma requête devant la chambre du roi !»